Bonjour Jean-François Cesarini.
Bonjour.
Le plan pour les hôpitaux annoncé hier par le Premier ministre, 1,5 milliard d'euros sur 3 ans et 10 milliards d'euros de dettes reprises sur 3 ans également, ne fait pas l'unanimité, il faut bien le dire. Loin s'en faut. Les deux principaux collectifs, Interurgences et Interhôpitaux, se disent très déçus et appellent à la poursuite du mouvement avec deux nouvelles journées de mobilisation, l'une le 30 novembre et l'autre le 17 décembre. Vous qui avez, on l'a déjà entendu et on va peut-être l'entendre ce matin encore, un certain franc-parler, est-ce que vous diriez que ce plan répond aux demandes qui se sont exprimées, au désarroi qui s'est exprimé par les personnels hospitaliers ?
Ce qui s'est passé, il faut peut-être rappeler un petit peu l'histoire, c'est-à-dire que moi, je fais partie des 3 députés de la majorité qui se sont abstenus sur le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. On n'a pas été très nombreux. Et les raisons de cette abstention étaient, pour moi, multiples. Un, il y avait un problème de non-compensation de la dette, vous savez, et de, oui, la Sécurité sociale. Cette année,
disons... Après les mesures prises...
pour les gilets jaunes, effectivement, pour les mesures d'urgence. Et c'est pour ça que c'était important de le dire, ça. Un, cette année, la Sécurité sociale aurait dû être à l'équilibre, pour la première fois depuis très longtemps. S'il y a un trou de la Sécurité sociale, elle n'est pas due du monde médical, pas du monde hospitalier, mais du, effectivement, comme vous l'avez dit, des mesures faites pour les gilets jaunes. Mais d'un coup, en gros, on demande finalement au secteur de la santé de combler un trou qu'ils n'ont pas eux-mêmes creusé. Donc là, c'est pour ça que moi je m'étais abstenu en disant on va attendre les annonces du gouvernement et on verra en deuxième lecture si on vote pour ou contre. Là, quand même, il faut noter un effort assez considérable, enfin je veux dire, la reprise d'un tiers de la dette. Je sais bien que les syndicats et les mouvements voulaient la totalité, reprendre les 30 milliards. Là, c'est 10 milliards, mais enfin, néanmoins, c'est beaucoup. Par contre, rajouter 1,5 milliard à la Sécu, c'est exactement ce qu'on disait au départ à la ministre en disant « il faut mettre plus, il faut mettre plus, il faut mettre plus ». La stratégie, c'est un problème de stratégie politique. On avait dit, et vraiment pas encore que, j'allais dire, les empêcheurs de tourner en rond dont je peux être, ou la gauche de la majo, mais en disant, annoncer avant que le mouvement se pourrisse. Ce moment-là, il est depuis mars dans la rue. Il est clair qu'aujourd'hui, avec la mobilisation qu'il y a eu, arriver avec ces annonces qui néanmoins sont fortes, me semble effectivement compliqué en termes de stratégie politique, et je crois qu'on retombe sur quelque chose, un peu sur un processus gilet jaune, à force de courir après des manifestations, plutôt que d'essayer de les éteindre à la racine.
Ce que disent au fond ceux qui expriment leur déception, c'est qu'on ne change pas de logique. On reste dans une réflexion budgétaire, économique. On pense d'abord aux directeurs d'hôpitaux, et qu'il faudrait peut-être repenser les hôpitaux avec un prisme plus médical.
Oui, effectivement, on parlait de la reprise de la dette, donc de 10 milliards sur 30. Il est clair que structurellement, si on change rien, la dette va revenir. Du fait même, effectivement, que c'est le système lui-même qu'il faut changer. Et pas juste essayer de remettre de l'argent dans un puits sans fond. Moi, ce que je vois quand je rencontre beaucoup les syndicats hospitaliers et dans mon territoire, parce que j'ai effectivement un hôpital à Avignon, ce qu'ils me disent aussi, c'est est-ce qu'on peut être plus contraignant avec le secteur privé, avec le secteur libéral, parce que là, on a vu qu'il y avait des primes, l'idée de revaloriser les revenus, alors pas les salaires, mais les revenus, notamment par des primes, on sera jamais, j'allais dire, au niveau du privé. On voit que les écarts sont très grands et que cette concurrence-là au sein du secteur médical est compliquée. Par contre, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'on dit, on fait un recours aux urgences de plus en plus systématique, du fait aussi que le secteur privé n'assure plus certaines permanences et n'a plus certaines obligations pour recevoir les gens. En gros, je ferme le vendredi à 17h et puis allez aux urgences si vous avez un problème. Le problème, il est beaucoup plus structurel que ça. Je suis d'accord. Donc sur ces annonces-là, il y a beaucoup de bonnes choses. Après, notamment sur la répartition géographique aussi, qui est très importante, sur la fermeture des maternités, là, il n'y a rien eu.
Mardi, le président de la République est allé essayer de retisser le lien avec les maires devant le congrès annuel des maires de France, et le président de la République a évoqué les questions de communautarisme et d'islamisme. Dans certains quartiers, a-t-il dit, certaines communes progressent depuis quelques années un projet de séparation d'avec la République, et le président a cité notamment les horaires réservés aux femmes dans les piscines, la disparition de la mixité dans certains espaces publics, des services communautaires qui cherchent à se substituer à la République, et enfin, les cas de déscolarisation d'enfants qui se multiplient dans les écoles. Est-ce que vous vous êtes senti en phase avec les propos d'Emmanuel Macron ?
Non, sur le constat, sincèrement, on peut être d'accord. Moi qui viens d'un territoire aussi où il y a beaucoup de quartiers prioritaires, on voit effectivement ce genre de phénomène-là. Ensuite, il faut voir comment on en parle et comment on le traite. On l'avait dit lors du discours du président de la République devant les députés à la rentrée de septembre, où il y avait un discours qui était pour le moins flou, où on mélangeait à la fois immigration, droit d'asile politique, communautarisme, islam, délinquance. Tout ça nous semblait assez compliqué. Je le dis parce qu'on nous a, pour être gentil, promené, ou en tout cas occupé pendant des semaines et des semaines sur l'immigration.
Qui l'a fait, ça?
À la fois, on a voulu un débat sur l'immigration. Moi, ça me va très bien de parler d'immigration. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas laisser ces thématiques-là à l'extrême droite. Après, ça dépend comment on en parle. Si on en parle avec le concept de l'extrême droite, bon, on a déjà perdu avant même de commencer à en parler. On a obtenu, quand je dis « on », c'est effectivement la sensibilité sociale du groupe, plutôt des choses importantes sur l'immigration économique, qui est un grand tabou français. Pour le coup, là, je suis contre les quotas, mais je pense qu'en plus, c'est juste techniquement irréalisable. Mais néanmoins, le fait de dire que l'immigration amène des choses positives dans ce pays, du fait qu'il y a des gens qui viennent avec de la main-d'œuvre, etc., etc., change un peu le discours d'une immigration qui serait que de la fraude et que de la délinquance. Donc ça, c'est plutôt important pour nous. Par contre, ce que là dit le président, et c'est bien ça qu'il faut déconnecter, sont des problèmes franco-français. Quand on parle de communautarisme, comme il l'a fait, et il a raison de le faire, ça n'a rien à voir avec l'immigration. Ce sont des Français depuis plusieurs générations. Ça n'a rien à voir avec la politique migratoire. Donc, ne mélangeons pas tout. Parler effectivement qu'il y a du communautarisme dans le quartier, oui. Considérer que nos quartiers seraient que ça, non. Parler de listes communautaires, moi, je sais pas ce que c'est qu'une liste communautaire. Moi, je veux bien qu'on m'explique ce que c'est. Est-ce que c'est une liste où tout le monde a la même religion? Alors, à ce moment-là, j'en connais beaucoup des listes communautaires catholiques. Genre, c'est pas le problème. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que certains élus ne respectent pas la loi et donc la laïcité? Et à ce moment-là, effectivement, ils seront sanctionnés. Mais quand je vois le score de ces listes-là dans mes territoires et en France, qui sont des scores très faibles, un, c'est une bonne nouvelle, et peut-être qu'il aurait dû le dire, il n'y a pas de vote communautaire dans ce pays. La preuve, c'est qu'il n'y a pas d'électorat communautaire dans ce pays, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Je le disais, et vous l'avez d'ailleurs évoqué vous-même à plusieurs reprises, vous appartenez à ce qu'on pourrait appeler l'aile gauche de la majorité du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, et vous réfléchissez à l'idée de créer un groupe qui incarnerait ce courant donc de la gauche de la majorité. Où en êtes-vous dans cette réflexion?
Alors, on n'en est pas, c'est pas aussi direct et clair que ce que vous le dites. Alors, effectivement, il y a une majorité à l'Assemblée nationale, à La République En Marche, qui vient plutôt de la gauche. C'est historique, c'est sociologique. Une grande majorité vient plutôt du Parti Socialiste. Et on a un gouvernement qui, lui, par sa composition, est plutôt composé de gens qui viennent plutôt de la droite.
Mais par sa composition ou aussi par sa politique?
Ah, ben, par sa composition et donc par sa politique. Mais, qui fait que souvent, on l'a vu, la liste est tellement longue, le calcul des APL, la CSG, la loi anti-casseur, enfin, j'arriverai pas tout à les mettre sur une liste, fait que souvent, il y a des frictions. Ce qu'on dit, nous, depuis le départ, c'est de dire, si vous écoutez la diversité de la majorité, il est possible que vous évitiez certaines crises. Parce que nous, on vous fait notre métier, notre fonction. C'est comme ça qu'on a été créé à la Révolution française. C'est de dire, je remonte de mes territoires des choses que j'entends à Paris. Ouais. Et donc, quand on leur a dit, l'augmentation de la CSG brutale sur les retraités, ça va pas passer, bah, ils ont eu effectivement les gilets jaunes. Et puis, 2 mois après, on a eu effectivement une baisse. Donc, là-dessus, on dit quoi? On dit aujourd'hui, est-ce que c'est l'uniformité, l'unité du groupe qui est sa force? Ou est-ce que c'est la diversité de cette majorité qui est sa force? Et est-ce que cette diversité doit s'exprimer uniquement dans le groupe En Marche? Ou peut-être, comme elle existe déjà avec UDI Agir à droite, qui fait partie de la majorité, du Modem, qui fait partie de la majorité, est-ce qu'il faudrait pas effectivement aussi, je dis bien au conditionnel, avoir un groupe qui soit dans la majorité, dans la famille, pour renforcer
encore plus? Dans votre esprit, ça c'est clair, il serait dans la majorité.
Exactement, parce que je pense que si on laisse, et on a perdu une dizaine déjà de députés qui sont partis du groupe de la majorité, tôt ou tard, ils vont vouloir s'agréger entre eux, ce qui est normal. On a déjà vu Liberté et Territoire, et on sent qu'il y a des mouvements, effectivement, à l'intérieur. Se dire, si on laisse faire ça de cette manière-là, on aura sûrement un groupe, mais un groupe qui sera peut-être d'opposition et qui sera vraiment anti-Macron et un groupe de frondeurs. Il ne faut pas qu'il y ait ça. Il faut peut-être qu'on organise notre diversité plutôt que de la subir.
Combien de députés votre démarche pourrait-elle séduire?
Oh, c'est aussi difficile à comptabiliser. La loi est que pour un groupe,
il en faut 15.
Voilà, si ça peut être effectivement une vingtaine ou plus. En tout cas, ça parle beaucoup. Moi, j'essaie effectivement de temporiser tout ça, d'essayer de comprendre à quel point ça peut être utile ou pas, et justement pas fracturer, mais plutôt faire vivre encore une fois cette richesse-là.
Merci Jean-François Césarini. Merci. Bonne journée.